Les rencontres d'Edmond Morel.
Charles Dantzick, vous publiez chez Grasset votre dernier essai en date, Pourquoi lire ? Une interrogation qui fait suite au dictionnaire égoïste de la littérature française et à l'encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Je dis qu'il fait suite, même si vous êtes aussi romancier par ailleurs, mais ce sont trois essais qui ont une certaine complémentarité.
Excusez-moi de vous déranger.
Ah oui.
Vas-y, le salon était nettoyé, d'ailleurs, ça serait... Non, parce que ça fait 2 heures que je fais des interviews ici, alors que le salon est toujours dégueulasse à côté, mais...
Je peux rien y faire,
monsieur. Je sais que c'est pas vous, mais...
Je suis vraiment désolé.
Vous n'y êtes pour rien, c'est pas grave.
Si je peux faire quelque chose pour vous,
non,
après la
réception... Non, mais c'est pas vous, mais
laissez bien, laissez bien fermer la porte.
D'accord.
Parce que comme je fais de la radio, non, vous ne pouvez pas deviner. Ce « Pourquoi lire » fait suite à deux autres essais, il appartient à la même catégorie. Et ma première question porte sur le « Comment écrire un livre comme celui-là, qui fait suite aux deux autres, et qui donne l'impression d'une organisation très poussée sous un désordre apparent, comme si l'apparence devait dissimuler en fait un travail assez sérieux d'encyclopédiste. »
Eh bien, merci de dire ça, parce que je ne voudrais surtout pas donner l'impression que j'ai accompli un travail considérable. Je n'aime pas avoir l'air vantard, donc j'aime mieux donner l'impression du négligé et d'organiser savamment mon négligé. Et les gens choisissent comme ils veulent, effectivement, leur propre organisation de lecture, mais je travaille trop pour vouloir donner l'impression que je travaille.
Alors comment, vous avez répondu à la deuxième partie de la question, c'est vrai que j'avais posé deux questions, mais comment ça s'organise ?
En fait, c'est un livre de, en quelque sorte de ricochet, parce qu'après avoir écrit les deux que vous venez de citer, et en particulier le dictionnaire égoïste qui parlait plus spécifiquement de littérature, j'ai voulu réfléchir à ce que c'était que la conséquence de la littérature. Après avoir écrit sur la chose, je voulais écrire sur les conséquences de la chose. Et au fond, la première conséquence de la littérature, qu'est-ce que c'est ? C'est la lecture. Et donc, je me suis un peu renseigné. Beaucoup étonné, c'est que la bibliographie est très récente en matière de lecture. C'est-à-dire que nous lisons depuis très longtemps, évidemment, depuis qu'il existe des livres. Et pourtant, il y a très peu de livres sur la lecture. Et c'est des livres très récents qui datent. Ça a commencé dans les années 1960, comme ça, Borges commençait à parler de lecture. Maintenant, il y a plus de livres sur la lecture, mais c'est très étonnant qu'on n'ait pas réfléchi avant à ce sujet-là. Et donc, voilà, je voulais un peu essayer de faire le tour de la question de cet acte, au fond, si étrange qu'est la lecture, parce que mon livre porte sur une chose très particulière, qui est la lecture de littérature. Parce que, en effet, on voit que la lecture de philosophie, de livres de politique, de mémoire historique, de livres économiques, tout ça, on comprend à quoi ça sert. Précisément, ça sert à quelque chose, à s'instruire sur un sujet. Mais qu'est-ce qui fait que, dans la vie des gens normaux et sérieux, tout d'un coup s'interrompent pour lire des choses comme des romans ou des poèmes, des choses qui ne servent à rien apparemment et qui n'ont pas d'utilité immédiate? Ça m'a très intrigué. Eh bien, je pense que, précisément, c'est parce que ça n'a pas d'utilité immédiate qu'on lit. Nous vivons dans un monde utilitaire et même utilitariste, qui est uniquement préoccupé de cupidité et d'intérêt matériel immédiat. Eh bien, si on lit, et peut-être même sans s'en rendre compte, c'est à cause d'abord de cet élément de gratuité. C'est-à-dire qu'on décide de se séparer de notre environnement immédiat qui est uniquement utilitariste. Et d'ailleurs, le geste même de la lecture le montre, qui est très, très étrange au fond. Qu'est-ce que c'est que de lire un livre ? C'est-à-dire, on prend ce parallélépipède rectangle, on l'ouvre, on baisse la tête, on plonge la tête, et aussitôt, de part et d'autre de nos yeux, il y a des barrières. Lire est un acte qui sépare. C'est très important, ça, on ne le dit pas, mais on dit, il y a un discours sur la lecture, assez, les lecteurs, c'est sympa, c'est cool d'être lecteur, enfin, moi, qui me paraissent assez déplorables, parce que si la lecture, c'est d'être sympa, je préfère une glace à la fraise.
Vous dites aussi que la lecture, c'est pas, mais vous dites aussi que la lecture réinvente finalement l'écrivain, réinvente l'auteur, redonne vie. Vous avez une formule sur des cadavres qu'on abandonne, alors qu'un livre est un cadavre à qui on redonne vie par la lecture.
Bien sûr, je crois que, au fond, un livre fermé, c'est un caillou. Ça n'existe pas tout seul, un livre. C'est peut-être la seule forme artistique qui soit ainsi, parce que, mettons, une sculpture, elle est à côté de nous dans un jardin public, elle est là, elle est en acier, en pierre, en marbre, ce qu'on veut, elle existe, elle est là. Elle n'a pas besoin de nous pour exister. Mais un livre qui est fermé, positivement, ça n'existe pas. Dans notre bibliothèque, un livre fermé est un caillou. Et il faut réellement le concours de la lecture et du lecteur pour que cet objet inerte reprenne vie. C'est très curieux parce que c'est une conversation entre deux solitudes en quelque sorte. C'est la solitude de l'auteur et la solitude du lecteur. Et bien tout d'un coup, c'est le regard du lecteur avec ses propres émotions et ses propres pensées qui redonne vie aux émotions et aux pensées de l'auteur qui était inerte et endormi.
Si vous voulez bien, alors je vais me placer dans la position du lecteur de votre « Pourquoi lire ?». Il m'a semblé avoir décelé une sorte de fil rouge qui revient à différentes reprises de manière plus apparente dans le livre, c'est l'enfance. Vous démarrez le livre en racontant notamment comment ça a été dur pour vous d'être privé du mystère de déchiffrer, alors que vous étiez dans un contexte scolaire qui faisait qu'on apprenait la lecture un peu plus tard que vos petits camarades. Et l'enfance revient à différents moments de manière sporadique, comme si il y avait dans la lecture quelque chose qui s'apparentait à l'émerveillement de l'enfance, c'est-à-dire de tous les apprentissages.
Oui, je crois que ça s'apparente à ça, et que si on continue à lire, je veux dire si on continue à être un grand lecteur, c'est-à-dire qu'on lit plusieurs livres par semaine et non pas, comme bien des gens, un livre par an, c'est que ça s'apparente à une recherche d'un paradis perdu. Vous savez, j'ai mis un épigraphe de mon livre un oracle chaldaïque et qui dit simplement « cherche le paradis ». Eh bien, au fond, c'est l'indice que je donne en ouverture de ce livre, c'est cela qu'on cherche. C'est-à-dire, on recherche ce moment d'enfance où on avait l'impression de comprendre le monde et où on avait l'impression que la lecture nous aiderait à le comprendre, à percer un mystère. Évidemment, toute chose qui se perd après avec les âges catastrophiques qui se succèdent, comme l'adolescence qui est un moment terrible où on perd toute connaissance des choses, à mon avis. Et bien, la lecture nous remet peut-être dans cet état d'abandon que peut être l'enfance. Et je crois qu'on est un bon lecteur qu'à condition de s'abandonner. C'est-à-dire que moi, quand je lis, je m'abandonne complètement, mais vraiment comme un bébé, à l'auteur. C'est seulement à cette condition qu'on peut être le réceptacle de ce qui vient du livre.
À différentes reprises, vous essayez de trouver les mots pour définir la littérature et la lecture. Et vous avez dans un des chapitres une image, une métaphore de la littérature qui serait comme un adulte ou une grande sœur qui tient par la main la lecture qui est la petite sœur. Comment est venue cette image? Parce qu'elle est très, très évocatrice et elle semble une évidence.
Écoutez, je crois qu'il ne faut pas expliquer les images parce que vous l'avez cité, je me contenterai de ça, parce que si je l'ai écrite, c'est que je pensais qu'elle condensait exactement ce que je pensais. Et quand on se met, c'est pas du tout que je refuse de répondre à votre question, mais je trouve que quand on se met à expliquer une image, on devient pâteau, balourd, et au fond, on ne réussit jamais. Voilà, j'ai dit ça, et je pense que c'est la meilleure façon de condenser ce que je veux dire.
Vous dites aussi dans la littérature, et là ce n'est plus une image, et la lecture et la littérature permettent d'être confrontés et de pouvoir absorber la complexité de toute chose, y compris des humains. Est-ce que c'est ça peut-être un des rôles de la lecture et de la littérature, c'est d'apprivoiser la complexité?
Ça peut être ça, c'est en tout cas de la capter, c'est déjà ça, parce que la vie qui est la chose qui est à côté de la littérature et de la lecture, elle simplifie les choses énormément, ne refuse la complexité et les nuances. Eh bien, je crois que ce que doit faire la littérature, et par voie de conséquence, ce qu'essaie de capter la lecture, c'est de capter toutes les nuances. Et c'est à cette condition, d'ailleurs, que tous les écrivains sont... Enfin, que les écrivains deviennent bons. C'est que je crois qu'on dit abusivement, finalement, un grand écrivain, qu'est-ce que ça veut dire, grand? En taille, en quoi? Grand par rapport à quoi? Au fond, ce qu'on devrait dire, c'est un écrivain moirée, vous savez, comme la moire, hein, comme cette issue qui capte tous les reflets, les nuances. C'est quelque chose de très sensitif. Parce que la littérature a cette chose de très singulière, à mon avis, qu'elle est la seule forme d'écrit qui contienne l'émotion. Les autres le refusent, ne sont pas faites pour ça d'ailleurs, elles sont très bien sans ça, mais la philosophie ne comprend évidemment pas l'émotion. La littérature, et c'est son impureté, et c'est sa grandeur, comprend l'émotion. Et c'est ce qui fait que la littérature est, à mon sens, la chose qui permet de mieux comprendre l'humanité, parce qu'elle comprend cette humanité.
Dans votre livre, vous aimez aussi, et comme dans l'encyclopédie, vous aimez aussi à développer une certaine forme d'ironie grinçante à l'égard de certains auteurs. On a l'impression parfois que vous réglez des comptes, puis pas vraiment, parce que vous les admirez quand même. Ça vient d'où ce besoin d'être comme ça, un peu grinçant, par jeu?
Ça n'est pas un besoin, c'est ce que je suis. C'est probablement... Vous savez, c'est ma... Je crois que c'est ma forme d'amour. Moi, quand j'aime, je bouscule. Je suis un amoureux pénible parce que je bouscule. C'est pour ma manière à moi de prouver aux gens que je m'intéresse à eux, qu'ils sont vivants, et que surtout, j'ai pour eux bien autre chose que du respect, cette notion que je méprise et que je fuis. Moi, j'ai pas besoin de respect. Je n'en demande pas pour moi-même et je n'en ai pas pour les autres. Je veux de la déférence, je veux de l'amour, je veux de la passion, mais pas du respect. Et en fait, je bouscule ces gens-là parce que je les aime. Et vous savez, on a un peu tendance à considérer les écrivains du passé comme des statues. Et bien, tout d'un coup, s'ils sont des statues, moi, ils ne m'intéressent plus, ils ne sont plus vivants. Donc, vous savez, c'est aussi une part d'amusement dans ce comportement, parce qu'au fond, c'est aussi une forme de nuance.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, dans votre livre, il y a une autre caractéristique qui est que vous avez inclus une série d'images, de reproductions de caricatures, de photographies, de reproductions de tableaux, mais alors aussi des images qui sont trompeuses, comme par exemple le sexe de Sharon Stone.
Oui, écoutez, j'ai essayé de mêler dans ce livre les images d'une façon particulière, c'est-à-dire que les images ne sont pas des illustrations et le texte qui les accompagne n'est pas du commentaire. J'ai essayé de faire en sorte que les images soient des éléments même du texte que je ne commente pas, puisqu'après tout, je considère que la littérature est une forme d'image. Et à l'intérieur de ce livre, j'avais voulu reproduire, pour donner le contre-exemple de ce que peut être le contraire de la lecture, Sharon Stone dans le film Basic Instinct, où elle écarte les cuisses. Eh bien, Canal+, qui gère les images de Sharon Stone, a interdit d'utiliser l'image. Ce qui m'a beaucoup amusé, d'ailleurs, parce que vraiment, le Canal+, était scandalisé par ce que je disais autour. Eh bien, ça prouve d'abord une chose, c'est que les livres peuvent être encore gênants. On peut faire... Alors, ce qui m'a amusé, c'est que Canal+, n'interdit pas la diffusion de l'image sur Internet. Ça veut dire qu'au fond, ils savent très bien qu'Internet, c'est anodin et c'est un outil de promotion. Tandis que dans un objet comme un livre qui tente d'avoir de la pensée, de la réflexion et, comme vous disiez, de l'ironie, ça les embête beaucoup plus. Mais j'ai détourné la chose en remplaçant, en essayant d'avoir...
Ne le dites pas comme ça. Voilà, on pourra dire qu'on peut voir cette image malgré l'interdiction de Canal+, dans votre livre, Exactement. Ce qui est... Alors... On sait que vous êtes aussi éditeur. J'aimerais savoir comment, dans quelle mesure, la rédaction de cet essai sur la lecture a ou vous craignez qu'elle puisse transformer votre manière de lire des livres qui ne sont pas encore des livres, les manuscrits.
Je ne sais pas, non, je présume. Vous savez, ce sont des choses que je rumine et auxquelles je réfléchis depuis longtemps. Donc je pense que si ça doit modifier quelque chose, ça s'est déjà produit. Et puis, vous savez, je suis, quand je lis comme éditeur, j'essaie de me mettre dans la position que je recommandais au lecteur, c'est-à-dire dans une espèce d'état d'enfance. Moi, quand je lis un manuscrit, je ne lui demande pas quelque chose. J'essaie d'imaginer ce qu'il pourrait être au mieux de lui-même. Et quand il arrive, comme ça arrive parfois, quand il m'arrive un manuscrit d'un très jeune homme brillant et talentueux, je suis enchanté. Enfin, je veux dire, ça prouve simplement que nous ne sommes pas morts et que ça continue. Donc je me mets dans cet état d'enfance et je ne laisse pas... En tant qu'éditeur, j'essaie d'avoir de l'imagination et je ne demande pas aux autres... aux auteurs. Vous savez, juger un manuscrit, c'est pas du tout la même chose que juger un livre. Un livre imprimé, il est fini, je fais le mouvement de l'acheter, c'est-à-dire que je dépense de l'argent, que je m'engage pour ce livre et j'ai le droit de lui demander des comptes. Lire un manuscrit, ça n'est pas du tout la même chose. C'est essayer d'imaginer ce qu'il pourrait être au mieux de lui-même une fois qu'il sera imprimé. Et donc, je n'ai pas le droit de lui demander de me plaire. Donc, j'essaie voilà, c'est la lecture d'éditeur est une chose très, très différente. C'est une lecture d'imagination, au fond, d'imagination idéaliste, voilà.
Vous êtes aussi romancier, alors j'ai posé la même question aux romanciers. Est-ce que le fait de connaître, de s'interroger autant sur la lecture et la littérature apporte quelque chose ou retire quelque chose à votre liberté d'écrivain, de romancier ?
Écoutez, si je répondais par le positivement, ça voudrait dire que tout d'un coup, l'intelligence et la culture sont paralysantes quand il s'agit d'écrire, ce qui est tout à fait le contraire du vrai. Non, au contraire, plus on sait de choses, plus d'abord on se rend compte qu'on ne sait rien, ce qui est très très utile. Et puis, la forme de connaissance par la fiction est une forme de connaissance tout à fait différente que par l'essai. Non pas qu'il y ait moins d'imagination dans un essai, c'est une autre forme d'imagination. Mais la fiction est une forme un peu plus, à la fois plus candide et plus rusée, d'essayer de connaître. C'est-à-dire, la fiction, c'est un peu comme un enfant qui met les doigts devant la main devant les yeux en écartant les doigts. Alors que écrire un essai, c'est plutôt regarder avec une loupe. C'est pas la même chose. Donc, au fond, ça n'a pas d'influence l'un sur l'autre.
Charles Dantzig, je vous remercie pour cette interview et aussi pour ce livre qui, en fait, est un assemblage de milliers de livres, tous ceux que vous donnez envie aux lecteurs de lire, de découvrir ou de relire, parce que relire, c'est aussi important pour vous. Pourquoi lire ? Charles Dantzig est publié aux éditions Grasset.
Les rencontres d'Edmond Morel.